Bonjour ma chère Vera, je vais tout de suite vous donner la parole pour que vous tentiez d'expliquer avec moi, un auditeur tiers externe, non informé, de quoi il s'agit, de ce que nous avons tenté de réaliser dans ce temps, ce timing du témoignage, dans ce qu'il vous est arrivé en tant que burn-out. Voilà. Et donc, pour expliquer un petit peu tout ça, avant de proposer le déroulement de notre entretien à nous, de récapitulation et de timing de compréhension que les intéressés pourront entendre après. Donc nous introduisons cette question. Voilà, je vous prie de bien vouloir vous exprimer.
D'autant que je me souvienne, l'idée de témoignage, vous me l'avez proposée, sans que je comprenne vraiment en quoi ça allait consister. Et j'ai commencé à subodorer ce que ça pouvait être lorsque nous avons coécrit avec Nadine Mouchet le témoignage de mon itinéraire. Puis s'en est venue l'idée d'un témoignage sonore. Et c'est là que je me suis rendu compte que de ce mouvement intérieur que ça mettait en œuvre chez moi. Et qu'en fait le témoignage était en quelque sorte un travail thérapeutique à part entière à l'intérieur même de la thérapie.
D'accord. Je pense que c'est très important d'essayer un tout petit peu de faire comprendre, puisque vous êtes dans le vécu de ce vécu, et dans ce mode de retournement physique-émotionnel qu'introduit la perspective du témoignage oral et de se faire entendre par oral.
C'est vrai que on dit souvent c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et là, c'est chemin faisant, puisqu'on nous sommes tous les deux à l'intérieur de cet espace témoignage, espace image, espace son. Et c'est à l'intérieur de ce témoignage que je me rends mieux compte en observant, en étant dedans et dehors, de sa complexité.
Donc si vous faites comprendre bien à ceux qui n'y sont pas, cela en quelque sorte duplique le point de vue et le temps de dedans et le timing et le dehors, dans cette espèce de double façon d'être, de sentir, qui se met en place en quelque sorte comme de deux points de vue, ensemble et décalés, dans la perspective du témoignage oral sonore d'expliquer, de faire comprendre à une tierce personne, par exemple.
C'est vrai que le mouvement premier qui m'a animé, qui m'a fait dire oui, même si la peur était présente, peur d'être jugée, peur du regard de l'autre, peur de ne pas savoir faire, que sais-je encore, le mouvement qui m'animait, c'était de me dire pouvoir partager une compréhension, déjà, que ça peut nous tomber dessus n'importe quand, au moment aussi où on ne s'y attend pas, mais c'est pour quelque chose de plus large, pour œuvrer pour la santé. J'avais commencé un poème qui disait « Témoigner pour les amis au travail, restez ». En fait, voilà, je témoigne pour ceux qui y sont encore et qui pourraient ou qui peuvent souffrir de ça, subir les choses que j'ai subies. Et c'est vrai que ça demande ce moment, ce mouvement pas si simple d'association, c'est-à-dire qu'il faut s'approcher. J'avais une ligne qui disait « Témoigner, c'est s'approcher du danger, de ce qu'on a vécu, pour le voir rapetisser et s'éloigner. » Il faut s'approcher pour s'éloigner, sinon ni l'un ni l'autre n'ont lieu.
D'accord. Alors vous donnez à entendre, à comprendre, un mode travelling qui est très difficile d'expliquer, de faire sentir à froid, en quelque sorte, hors contexte ou hors événement, avec son intensité, son chaud vécu émotionnel. Je pense que vous maniez aussi indirectement l'humour en pensant à un livre que vous m'avez cité aussi, et que donc ce témoignage est un peu pour ceux, on dirait pour les amis, qui sont encore eux des rescapés.
C'est ça, c'est ça. Et peut-être pour être plus précise, parce que témoigner, c'est pour l'autre qu'on le fait. On va puiser en soi, mais on le fait pour l'autre. Donc ça demande de se dire, mais est-ce que quelqu'un qui ne serait pas passé par les mêmes, entre guillemets, tourments, et qui n'aurait pas eu à faire les mêmes remises en cause intérieures, qui me semble assez conséquente, on est allé assez loin tous les deux, comment partager ça? Donc à un moment, j'ai eu à me confronter à cette limite, de me dire, mais comment je peux me faire comprendre de quelqu'un qui n'aurait pas vécu la même chose.
D'accord. Donc, vous voyez qu'on est sur des images, des sensations internes, telles que passer le mot à quelqu'un d'autre, donner le mot à quelqu'un d'autre. Donc, on est dans cette espèce de renversement, semble-t-il, aussi dans une perspective de don.
C'est ça.
D'offrir quelque chose à d'autres ou à quelqu'un d'autre.
Oui, dans la mesure où je suis une humaine comme les autres, j'ai été très en colère contre mon entreprise, contre moi aussi, de ne pas avoir vu ce qui se passait, de ne pas avoir trouvé les bons interlocuteurs. Toute cette phase-là, le témoignage est rendu possible parce que cette phase-là est passée et parce que une forme de paix est là, je sais ma part dans l'histoire. Et c'est parce que vous m'avez permis de trouver ma part dans l'histoire. Je ne suis pas pour autant dupe de la part des autres. Hein. Ça, c'est l'autre partie plus sociologique, hein, de comment des circonstances difficiles peuvent se mettre en place à notre insu, mises en place par d'autres. Mais une fois qu'une forme de recul est là, encore faut-il trouver les mots.
D'accord. Très bien. Alors, moi, je trouve que ce qui est... Si on entend un peu en décalé, mais on ne peut restituer en termes auditifs et de mots que ce qu'on entend aussi un peu en décalé, je pense que vous avez, à mon avis, dit quelque chose que par cette arrivée au témoignage, dans ce seuil de temps, en quelque sorte, vous regagnez par ce don, par se faire entendre, par cette offre, à des personnes pas connues ou des personnes que vous sentez qui peuvent être un peu proches pour rejoigner ce qu'on peut appeler la dimension de l'humain.
Oui, c'est une manière de... C'est comme si tous les deux on terminait la boucle, c'est-à-dire que je suis arrivée ici, c'était un goéland blessé, hein, sur la rive, un peu comme ces petits oiseaux mazoutés qu'on voit et qui ne peuvent plus se mouvoir. Et c'est un envol pour autre chose. Et un petit peu comme dans une spirale, c'est-à-dire un envol, mais pas du même endroit. Repartir, mais d'un endroit qui est bien plus élevé, bien plus tranquille que ce qui aurait été possible. Oui, et c'est vrai que c'est aussi une manière, puisque c'est donner, mais c'est se donner aussi. C'est aussi une manière de se construire tout en témoignant une nouvelle identité, de parachever cette nouvelle identité. Et c'est cette nouvelle identité que je vais ramener au travail, puisque je suis en phase de reprendre le travail.
Oui. Mais excusez-moi si vous permettez, ce que vous semblez dire aussi, c'est qu'il s'agit que vous donniez dans le cadre du travail, ou peut-être, mettons, dans le cadre d'entreprise, mais que vous donniez, mais pas de trop, pas en excès, car c'est aussi cette capacité du don et de se donner à l'intérieur de son cadre professionnel et de l'entreprise dont il a été question. Et là, avec votre métaphore très vivante, très dynamique de l'oiseau, qui reprend son vol, il s'agit que vous donniez, en quelque sorte, mais pas aux dépens de votre dynamique et de votre plaisir de vivre.
C'est vrai que si j'arrivais à, dans le témoignage sonore et peut-être autrement plus tard à donner, à sentir ou à donner, à ressentir ce que j'ai pu comprendre ici, mais aussi la liberté que j'ai acquise. C'est-à-dire qu'à un moment, je me souviens qu'on a regardé quelle liberté on pouvait avoir, même à l'intérieur d'un système contraint. Le travail est un système contraint par définition. Vous n'avez pas le poste totalement que vous souhaitez. Ce n'est pas totalement l'organisation que vous souhaitez. Et vous naviguez avec ça. Et moi, j'ai pu voir notamment un des paramètres qui m'avait mis le nez dedans, qui m'avait mis dans le mur, qui était, je ne faisais plus, j'étais tellement passionnée par mon travail, et j'ai eu cette chance, mais qui est aussi un inconvénient, d'aimer beaucoup ce qu'on fait. Je n'ai jamais eu des jobs alimentaires, qui fait que je n'ai pas introduit de distance par rapport à mon niveau d'engagement. Je ne me posais jamais la question de mon niveau d'engagement. Je m'engageais toujours comme à fond.
D'accord.
Par rapport en résonance à ce que vous venez de dire. Et là, je sais que je ne m'engagerai plus sans réflexion préalable à fond. C'est-à-dire que c'est moi qui déciderai, qui réfléchirai mon niveau d'engagement, le niveau d'engagement adéquat.
D'accord. Donc, peut-être qu'on peut dire que le travail dans votre entreprise, dans son cadre, avec toute la donne sociale que ça offre, que ça donne, vous a permis de vivre une passion, qui est une manière de se donner ou de s'adonner pleinement, et qui est sans doute beaucoup plus importante qu'on ne l'estime généralement en tant qu'énergie et plaisir vital, mais que par ce qui s'est passé à l'intérieur, vous allez devoir en quelque sorte compléter cette passion autrement, ou la vivre autrement, ou de façon différente, à l'intérieur même de vos processus vitaux, et disons que de votre plaisir de vie. Est-ce que cela a un peu de sens?
Oui, ça résonne très fort. Oui.
Cela, n'est-ce pas?
Ça résonne ces mots que vous venez de dire, parce que c'est la question de la conscience, je pense. La question de la distance que l'on choisit de mettre ou pas, et la question de la conscience de ce qui se passe.
D'accord.
Et je sais qu'il est question de ça beaucoup dans votre travail, et en tout cas ce que j'ai pu gagner ici et que je pourrais, que j'aimerais pouvoir partager, c'est cette conscience que l'on peut fabriquer en soi au fur et à mesure qu'on vit l'engagement au travail, de sorte de ne pas finir par l'épuisement.
D'accord, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on travaille son rôle et sa passion, par exemple.
C'est ça, de rester vraiment conscient de ce qui se passe à l'intérieur, conscient des signaux d'alarme du corps. Moi, je pense qu'ils étaient là, les signaux, mais je ne voulais pas les voir.
Oui.
Je faisais barrage à une forme de conscience qui aurait pu se poser, mais que je refusais parce que peut-être que ce qui était en train de se passer autour de moi était en tout cas compte tenu des choses non guéries chez moi, le travail me tenait lieu de vie aussi, et donc c'était pas possible que ça s'écroule, cette histoire. C'était pas envisageable. De la fonction du déni aussi dans cette histoire.
D'accord. Donc vous évoquez à l'envers toute une dimension qu'on a pu concevoir petit à petit tous les deux comme des couches de passion de vie, d'intérêt de vie, de traumatisme, d'histoire de vie, que les personnes ont chacune avec leur signature, y compris leur marque corporelle et psychocorporelle, dans des choses, des dimensions qui sont en général très peu connues ou très peu expliquées, où le corps, les images du corps, la mémoire, les sensations jouent un rôle tellement important dans l'édification de sa personne et de son système relationnel, là, et que c'est au travers de cet oiseau que vous étiez, qui a émergé en quelque sorte de son œuf de vie et d'enfance, que vous êtes trouvé, pouvoir trouver votre corps de passion, de réalisation, d'amitié, de solidarité, de choses de vie à vivre à l'intérieur de cette entreprise que vous avez appris à si bien connaître et qui était comme pour vous, semble-t-il, comme une sorte d'adoption réciproque de part et d'autre. Ah, est-ce que là-dessus vous êtes d'accord à peu près avec ce que nous avons comme ça
oui,
pu reconstituer
oui, absolument.
Comme une sorte de tissu mental vivant?
Oui, le travail ensemble, que je ne comprenais absolument pas au début. Aujourd'hui, les mots qui me viendraient, c'est peut-être revisiter toute cette structure mentale dont j'étais peu consciente de ma relation au travail et de qu'est-ce qui se jouait pour moi dans cet investissement excessif dans le travail. Et je n'avais pas eu l'occasion de même si j'avais fait des démarches thérapeutiques, elle n'était pas entrée par cet angle-là qui me permettait de revisiter la trame intérieure, la mienne à l'intérieur, de qu'est-ce que je cherchais comme ça dans le travail et en quoi c'était vital finalement.
Oui. Est-ce que vous pensez que le type de travail qu'on a pu tisser, construire ensemble, progressivement, ça peut être utile pour d'autres, pour se tisser, pour se travailler en image, en substance psychocorporelle et psycho-interne, préventivement ou avant d'arriver à un seuil, en quelque sorte, d'impact possible par ce type d'atteinte psychosociale qui est décrite dans ce genre d'histoire et d'aventure.
Je dirais, ça dépend. Tout dépend.
Oui.
Parce que très souvent, un ami qui réagissait sur le blog disait, très souvent, les personnes préfèrent soigner le mal par le mal. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des symptômes alarmant, mais remettre en cause toute cette trame qu'on a revisité ensemble,
oui, oui.
C'est un choix de vie qui est énorme. Et donc, dans un premier temps, beaucoup de personnes, dont moi, finalement, préfèrent continuer à se raconter la même histoire, se dire que ces symptômes finiront bien par passer, et continuent, en fait, à faire plus de la même chose. Et donc, bah, on sait bien comment ça va se terminer. Globalement, ça va mal se terminer. Donc, la réponse est, sans doute, mais avec un niveau de conscience et peut-être avec un accompagnement spécifique de votre part pour nommer, parce que moi, je suis arrivée ici, je pouvais être que demandeuse, j'étais à terre. Mais peut-être que 6 mois avant, ça se serait joué différemment. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais sans doute ce qui me vient là, c'est qu'une préparation, un accompagnement pour que je devienne consciente de qu'est-ce qui se tramait à l'intérieur, m'aurait effectivement permis de visiter en étant accompagnée cette trame de vie de la relation au travail, qui souvent est une relation... Dans le contrat de travail, on parle du mot de subordination. En fait, c'est vraiment ça. Je me disais dernièrement que les mots juridiques, finalement, sont pas si mal fichus, puisque le rapport aujourd'hui, en tout cas de la strate que je connais bien, cadre encadrant est un rapport où on va se couler dans la structure, à notre détriment s'il le faut.
D'accord. Là, je pense que vous nous amenez un cadre de réflexion extrêmement intéressant, à mon avis, vers ceux qui écoutent, qu'est-ce qu'ils en pensent, dans une dimension plurielle, où on parle souvent d'interdisciplinarité, mais je pense que c'est un mot, malheureusement, qui reste un mot très joli, mais pas trop garni, et que ce que vous dites, ça pose des problèmes qui sont intéressants à considérer, je dirais, en mode d'intelligence collective ou d'intelligence plurielle. Bon. Et qu'il est difficile de penser les réseaux en étant qu'une personne seule, ou un consultant seul, ou un spécialiste de ceci ou de cela, très pointu ou très je ne sais quoi, lui seul, à soi tout seul, et ayant acquis une surface grande comme un grand magasin. Et donc, cette question-là, elle est dans son retournement que vous dites, je pense qu'elle est une forme aussi de contribution de plusieurs domaines de personnes qui se mettent à construire une intelligence convergente sur quelque chose qui est importante peut-être pour plusieurs personnes. Qu'en pensez-vous ?
C'est vrai que quand on revisite la trame des faits dont il n'est pas fait état, puisque volontairement nous avons allumé le spot sur le travail intérieur qui a été mené. Et donc nous n'avons pas souhaité tous les deux renarrer la suite, la succession des chocs, la succession des maltraitances en quelque sorte dont j'ai été l'objet de la part de l'entreprise. Et c'est vrai que il y a un manque de réseau sur la question, c'est-à-dire que aujourd'hui mon vécu, c'est que chacun est un peu enfermé dans sa spécialité, qui le médecin du travail, qui le manager, qui le responsable hiérarchique, qui le DRH. Et en tout cas, moi, j'ai pu retrouver une forme de droiture vis-à-vis de moi-même quand j'ai retrouvé la vision globale. Il y a une vision globale par le partage notamment, chacun gardant sa spécialité qui manque, à l'heure actuelle, là où on en est en entreprise.
Alors, c'est très intéressant mon point de vue, en fait, ce que ceux qui écoutent, ce qui entendront, en diront. Je pense qu'on a été amené à travailler de part et d'autre sur ce que j'appellerais un vrai self, un vrai soi, reconquis et changé, en étant chacun dans son rôle, mais en étant au plus près d'être, je dirais, dans un travail d'être simple et nature. Et là, dans cette position, il n'est pas possible de reconstituer les choses en mode de traveling back. Donc je disais, ça n'est pas possible de donner une vue interne en traveling back de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui aurait pu ne pas se passer, etc. Parce que, au fur et à mesure que nous sommes arrivés, même en remontant le fil de l'espace-temps de ce qui était votre personnalité mentale, sociale, psychosociale, votre conformation propre, nous sommes arrivés en quelque sorte aussi au noyau, au nœud du traumatisme et de ce qui faisait mal dans ce qui vous a tellement impacté dans la rencontre du mur avec votre vie en entreprise, et que justement il nous faut pouvoir à partir de là en quelque sorte pouvoir expliquer un peu des moyens, mais dans une sorte, je dirais, de rétro-pédalage.
C'est vrai que c'est le contact avec la personne que vous étiez, intrigante pour moi, étonnante, curieuse, comme une forme de curiosité qui s'éveillait quand j'étais ici, que peu à peu je me suis rendu compte que finalement je venais ici dans un rôle et que nous avons pu détricoter le faux rôle dans lequel je m'étais enfermée, le faux rôle pour lequel je m'étais prise. La manager qui réussit, qui n'a pas d'échec, qui veut réussir et qui doit réussir. Et c'est vrai que ça m'a conduit à une réflexion sur le management, je ne l'avais pas faite jusqu'ici. Les méthodes de management telles que elles sont pratiquées en tout cas en France, je ne peux parler que ce que je connais, dans les grosses entreprises, que ce que je connais, je ne peux pas parler des PTE que je ne connais pas, où il y a vraiment une forme d'adhésion qui est demandée et où ça ne pose aucune question à personne de se dire mais est-ce que moi je suis d'accord pour me tuer comme ça des heures et des heures, des fois 10 à 12 heures par jour, pendant des semaines et des semaines, pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arriver au même type de résultat, mais par un chemin qui ne mette pas en péril ma santé? Et donc cette marge de liberté vis-à-vis de soi-même, c'est ici que j'ai pu la conquérir, en fait, de dire, certes, il y a des réalités économiques, j'ai besoin d'un certain salaire pour vivre, mais c'est la question du comment, et de à comment je veux passer ma vie, et je ne veux pas perdre ma vie à la gagner.
Écoutez, ma chérie, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être déduites de ça. Ce retournement de l'économique, de la réalité, du concret, du travail et du rôle réalisé, dont on peut avoir la fierté mentale, sociale, son identité dans l'espace social est une chose. Je pense aussi que vous avez témoigner de mon point de vue bien aussi de son retournement qui est en quelque sorte psycho-affectif, l'adhésion, l'importance, la manière d'aimer, d'être attaché, d'être très ancré dans ses relations, tout ce continent de l'affectif qui est tellement important et dont même les impacts corporels sont des fois parlé, mais pas suffisamment évalué. Et maintenant, donc, nous allons refermer cette page de notre témoignage. Nous laisserons se dérouler pour les auditeurs intéressés le courant du témoignage que nous avons fait par ailleurs, en finissant cette introduction. Et il me reste à vous remercier, voilà, et à remercier aussi les éventuels auditeurs en les remerciant pour, je dirais, leur bienveillance.
Tout à fait, c'est moi qui vous remercie et je les remercie d'avance parce qu'ils peuvent nous aider à peut-être plus de santé et puis une forme d'humanité dans l'entreprise à laquelle je crois.
Dans l'entreprise et peut-être aussi de façon plus totale car cela peut nous laisser dans l'aspiration et l'espoir qu'il existe par ailleurs des êtres bienveillants. Merci Vera.